Alléluia. Aujourd'hui, on continue notre petite étude qu'on est en train de faire, qui est une série qui est basée sur dans 1 Pierre, 2 Pierre au chapitre 1, au verset 5. On est en train de voir une série de choses que le Seigneur s'attend à ce qu'on ajoute ça dans notre vie. Il s'attend à ce que, même pas juste qu'on s'attende à dire, « Ouais, Seigneur, ça me tente. » Non, il dit pas juste si ça te tente, il dit, « Mets tous tes efforts à joindre à ta foi certains points qui sont nécessaires si tu veux vraiment briller dans ce monde, si tu veux vraiment démontrer que tu es un chrétien. » Parce que ça devrait faire partie de la vie de tout chrétien. Pas juste le pasteur, pas juste les diacres, pas juste les anciens, pas juste certaines classes de chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à mettre tous leurs efforts dans leur vie de chrétienne, dans leur vie chrétienne, pour ajouter ces points-là qui sont nécessaires pour grandir, pour porter du fruit pour le Seigneur. Puis ça dit même à la fin de tout ce paragraphe-là dans la Bible, dans ce passage-là, plus loin, ça dit, c'est ainsi, en mettant tous nos efforts, qu'on va porter du fruit, puis en plus, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel vous sera pleinement accordée. On veut-tu être sauvé juste par la peau des dents? Dire, ça a tout pris, là, je suis sauvé, mais ça a tout pris. Ou même, il y en a qui ne se rendront même pas parce qu'ils ne sont pas dans ce que Dieu s'attend du tout. Mais passer de justesse, c'est pas ben, ben glorieux. Mais que ça nous soit pleinement accordé, c'est parce que Dieu y est fier. Dieu nous voit aller, puis Dieu, il nous a bénis dans notre vie, puis il va nous bénir en plus l'autre bord. Il y a des récompenses ensuite pour le travail, pour les efforts, pour le combat qu'on aura livré. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre des efforts dans notre vie chrétienne. Puis ça, quand on parle de mettre des efforts, ça veut dire que c'est pas naturel. Ça veut dire que c'est pas facile de vivre ça. Que tous les chrétiens, même les premiers apôtres, c'était du monde humain, 100% humain, comme nous. Il dit même, Élie, c'est un homme de même nature que nous, puis là, il a intercédé, puis il y a eu une sécheresse pendant 3 ans et demi. Après ça, il a intercédé, puis s'est mis à mouiller, puis il a vécu des miracles dans sa vie. C'est un gars ordinaire comme nous, là. Mais là, à nous, il nous demande aussi d'être des gars, oui, c'est vrai qu'on est ordinaire au point de vue humain, mais on est aussi des gens nés de nouveau, qui marchent avec le Seigneur. Puis il dit, ça sera pas facile quand même, puis il faut que tu mettes des efforts. Puis ça en devient comme une responsabilité. C'est le chrétien et ses responsabilités. Tu as une responsabilité. Tu dis que tu es chrétien, mais il faut que tu vives en chrétien, puis tu as des choses à changer. On a vu la semaine passée qu'il fallait avoir de la persévérance. Mais c'était la patience qui est écrite, mais qui veut dire persévérant, être patient dans l'épreuve, patient dans nos combats, persévérant. Le mot voulait dire persévérant aussi dans le grec. Qu'on t'offre, qu'on lâche pas. Puis c'est de même qu'on a les promesses. Puis là, à notre persévérance, là, il dit d'ajouter une autre affaire de plus. Est-ce qu'il y a des gens persévérants ici dans le Seigneur? J'en vois quelques-uns. Il y en a qui ont 40 ans, 45 ans dans le Seigneur. Il y en a d'autres qui en ont 20, 25, 30. Il y en a d'autres, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça commence à zéro, la journée que tu donnes ta vie au Seigneur, vraiment, là, c'est un engagement. Tu t'engages à le suivre, ça commence là, ta vie chrétienne. On n'est pas sauvé en venant au monde. On n'est pas sauvé parce qu'on était d'une religion. On n'est pas sauvé parce que on pensait qu'on était sauvé. Non, on est sauvé à partir du moment qu'on se repent. Se repentir, là, ça sous-entend regretter notre vie de péché, puis à vouloir que ça change. Quand tu veux que ta vie change, puis que tu réalises que Jésus est mort pour te pardonner de tes péchés, mais c'est à partir de ce moment-là, quand tu lui donnes ta vie, tu lui dis, Seigneur, moi, je suis repentant, je veux que ça change, puis je crois que tu es mort pour me pardonner, puis me donner une nouvelle vie, mais tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, tu fais une prière pour l'inviter, puis il va rentrer, il va te pardonner tes péchés, puis il y a une nouvelle vie qui commence. Puis ça commence là. Il y en a qui ça a commencé, il y avait 14 ans, il y en a qui ça a commencé à 55 ans. Il y en a qui, moi, c'était à 21 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y en a à tout âge qu'on peut donner notre vie au Seigneur. Bien, il y a une journée qu'on le fait, puis là, on commence notre vie chrétienne. Puis là, il peut y avoir des hauts et des bas dans notre vie chrétienne. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre une vie super. Tu vas avoir des efforts à mettre toute ta vie. Puis les efforts qu'on a à avoir aujourd'hui, que Dieu nous demande, que en réalité, ce que Pierre a dit là, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande. Il dit, à cause de cela, ajouter à la patience, qu'on a vu la semaine passée, la piété. Comme j'ai dit au début de la réunion, la piété, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. Mais faire un effort à rajouter de la piété, c'est de faire un effort à devenir une personne pieuse. Une personne pieuse, c'est une personne qui cherche Dieu. Une personne qui a... Ça ne veut pas dire que tu l'as jamais entendu parler. Tu peux en avoir entendu parler. Ça peut faire peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu es chrétien. Mais si tu exerces, tu fais des efforts pour être pieux, même après 50 ans que tu marches avec le Seigneur, faut que tu fasses encore des efforts pour être pieux. La piété, c'est la recherche de Dieu. C'est de la révérence que tu vas avoir envers Dieu. Tu vas avoir du respect envers Dieu. Dans le dictionnaire, là, c'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs. Tu vas lui dire merci, tu vas lui dire qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est fin. Quand tu veux avoir de la piété, être une personne pieuse, c'est une personne qui reconnaît que Dieu est là, puis que tu veux vraiment la glorifier, chercher sa face, tu veux marcher avec, tu veux plus de lui dans ta vie, tu veux lui rendre le culte de prier, tu veux prier, tu veux lui rendre un culte de louanges, des louanges, tu veux lui chanter pour lui des chants, comme selon le psaume qu'on a chanté tantôt, qui disait « Rendez à l'Éternel la gloire et l'honneur », tout ça. Être pieux, c'est quelqu'un qui a le cœur pour Dieu. Le contraire de ça, c'est être indifférent. Tu sais qu'il est là, mais tu t'en fous, puis tu fais rien comme pas pour dire que tu lui dis merci ou tu voyez-vous, il y a comme dans le monde, là, le monde, il y a, en général, sont sans Dieu. Ils n'en veulent pas de Dieu, sont satisfaits, sont auto-satisfaisants, tu vois, ils n'en sentent pas le besoin. Ils peuvent vivre pleinement leur vie sans Dieu dans leur vie. Autosuffisant. Tandis qu'il y a du monde que, eux autres, c'est pas nécessairement qu'ils n'étaient pas capables de vivre sans Dieu, mais c'est du monde qui ont reconnu qu'il y en a un, puis tant qu'il y en a un, on est aussi bien à être glorifié. S'il y en a un, Dieu, ça sert à quoi de le négliger? Si on réalise qu'il y a un Créateur, écoute bien, il mérite toute la gloire et l'honneur, il m'a donné la vie, il m'a donné la santé, il m'a donné de vivre dans un pays où j'ai l'abondance, il donne tout là par bonté, par amour, puis il nous a donné son Fils qui est mort pour nous pardonner, puis il nous donne une place dans la vie éternelle. Écoute, il mérite-tu d'être glorifié? Croyez-vous vraiment que Dieu, le Créateur de toutes choses, est vraiment digne d'être révéré et respecté? En réalité, tous les chrétiens ont pris conscience que Dieu est là, puis ont décidé de commencer à y parler, puis à le prier, puis à le louer, puis à chercher sa face, puis à vouloir de plus de Dieu dans leur vie, plus d'effets dans leur vie que Dieu pourra faire. Parce qu'il y a un paquet de promesses sur plein de choses, puis... Si vous le savez pas, mais je vous le dis, il y a plein de promesses que Dieu a faites qu'il veut nous donner à chacun d'entre nous. Puis si vous en voulez, il s'est dit qu'il y a une table avec toutes ses bénédictions, puis il dit d'aller manger, de se servir à sa table, qu'on peut déjà manger présentement en allant dans sa présence, puis en recevant ses bénédictions, ses bontés. Dieu, il est le Créateur de toutes choses. À moins d'être 100% convaincu qu'on fait partie, qu'on vient du singe, là. Même le singe vient de où? Puis avant lui, là, c'est qui? Puis la première partie, c'était qui? Puis qui a mis ça là, sa planète? Puis qui a ma planète, là? Tu peux pas arriver plus loin puis dire, mais il n'y a pas de créateur. C'est impossible, c'est illogique, c'est contre la science. La science, là, il y a toujours une cause à effet. Dans la physique, là, il y a une cause pour un effet. Ça se fait pas des choses tout seul. C'est complètement anti-scientifique. Ça prenait un créateur au commencement, même s'il y aurait eu vraiment un Big Bang, comme qu'essaye de le dire. Il y a quelqu'un qui a fait ce qui a démarré tout le Big Bang. Il y a quelqu'un qui l'a démarré, sinon il n'y aura rien. Ça sera le néant, le vide. Personne n'aura conscience qu'il y a une vie. Mais il y a eu un créateur à quelque part. Puis ce créateur-là, je crois qu'il est digne d'être loué pour ce qu'il est. Puis la grandeur qu'il doit avoir, là, si tu regardes l'immensité de l'univers, puis tout a été créé par lui, il est encore plus grand que tout ça. Il est big. Moi, je pense que ça devrait nous inspirer une crainte d'avoir un Dieu si grand qui pense à nous, puis il nous a créés. La vie présente, il a créé la vie présente, puis la vie à venir, parce qu'on l'a dans notre cœur. Tous les chrétiens l'ont, cette espérance-là, qu'il y aura de quoi après la mort. C'est rare, j'ai rarement vu un chrétien qui ne croit pas à la résurrection. C'est peut-être déjà arrivé là, que dans les écrits, tu vois que Paul, il leur reprochait à certains chrétiens de ne pas croire à la résurrection. Mais Jésus qui est venu, il en a donné une preuve qu'il en avait une résurrection. Il est ressuscité 3 jours après, puis il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Il a même apparu à plus de 500 personnes. Puis s'il est vraiment ressuscité, comme c'est dit, que les apôtres y croyaient tellement qu'ils ont accepté de mourir pour défendre cette position-là, il n'y a pas grand monde qui mourrait pour un mensonge. Ils ont vraiment vu Jésus ressuscité. Puis s'il est ressuscité, où c'est qu'il est rendu aujourd'hui? Mais ça nous le dit dans la Bible qu'il est retourné dans la présence de Dieu, puis il a retrouvé la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est redevenu le omniprésent. C'est l'esprit créateur de tout qui est retourné dans sa gloire. Puis là, il nous regarde aller. Puis ça, oups, excusez. Il s'attend à ce qu'on se tourne vers lui puis qu'on y parle. Ce créateur-là, il a créé la vie présente puis la vie à venir. Puis ça nous dit que tout était créé en lui. Dans Colossiens 1, 16, car en lui, en Yeshua, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, même le monde invisible, les anges, ça, tout est créé en lui. Les trônes, la dignité, la domination, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que les chrétiens réalisent de plus en plus, une fois que tu es chrétien, puis tu comprends ces versets-là, tu réalises de plus en plus, ça a été créé pour lui. La vie a pas été créée pour moi. Moi, j'ai été créé pour lui. Ça fait toute une différence. Parce que si vraiment tu veux faire ce que Dieu veut, tu vivras plus pour toi, tu vas vivre pour lui. Tout a été créé pour lui. Tu cherches plus ton élévation, tu vas chercher la sienne. Dieu a le mérite de nous avoir créés puis nous avoir donné le souffle de vie. Êtes-vous vraiment conscient que vous êtes à l'intérieur de votre corps, qui vous a mis là? Vous n'êtes pas un poisson, vous n'êtes pas un chien, vous êtes un humain conscient. Parce qu'il y a juste nous qui sommes conscients qu'il y a un créateur, puis que nous sommes les créatures. On est comme la race la plus élevée de la création terrestre. Puis Dieu nous a donné la conscience, puis il nous a donné qu'on comprenne là, les choses, qu'on peut s'arrêter et comprendre. Il y en a qui vont nier toute leur vie qu'il y en a un Dieu parce qu'ils ne veulent pas être obligés de fléchir le genou devant lui. Mais il est là, puis tu ne peux pas le nier. C'est le Créateur, il t'a donné la vie, puis c'est ce que ça dit dans Isaïe 42. Il nous a donné le souffle de vie. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Si vous êtes en train de marcher sur la planète, c'est Dieu qui vous a donné d'être dans un corps, puis vous a donné la respiration. En lui, nous avons la vie, la respiration et l'être. Et nous marchons sur cette terre, puis c'est grâce au Créateur qui nous a placés là. Puis chacun des petits moments de bonheur, des petits moments de joie, des petits moments de réjouissance qu'on peut avoir, c'est parce qu'il a permis qu'on soit conscient dans notre corps de ces bénédictions-là, puis qu'on se réjouisse, puis on a des bonheurs, on a des joies. Il y a des peines, mais on se rend compte qu'il y a des peines, mais on se rend compte aussi qu'il y a des bonheurs, puis ça vient de Dieu. C'est Dieu qui voulait nous faire du bien. Puis c'est même lui qui dit dans d'autres passages qu'il a fourni de quoi manger, de quoi boire, il a envoyé son soleil sur les bons, sur les méchants, puis tout ça, la pluie sur les bons, sur les méchants. Puis on a de quoi manger, puis on peut se réjouir de ce qu'il nous a donné, parce qu'on a le ventre plein, puis on peut rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. C'est un Dieu-là, puis vu qu'il est Dieu, pas moi qui est Dieu, ni aucun de vous qui est Dieu. On est toutes des créatures, peut-être à l'image, mais on est, même si le mot image, ça veut dire qu'on y ressemble, mais on est loin d'être pareil. Il n'y a même pas de comparaison de dire qu'on est pareil. Vous n'êtes pas aussi puissant, vous n'êtes pas aussi intelligent, vous n'êtes pas aussi capable, vous n'êtes pas aussi équipé, vous n'êtes pas omniprésent comme lui, puis... Il y a des choses qu'on ne sera jamais, on ne le remplacera pas. Mais il nous a accueillis dans sa famille. Il nous aime, puis il nous a accueillis, puis il dit, vous êtes mes enfants. C'est un Dieu créateur de l'univers, il nous appelle ses enfants. C'est extraordinaire. Mais ce Dieu-là s'attend à ce que toutes ces créatures que Dieu a créées, même si le gars nie que Dieu existe, c'est quand même Dieu qui a donné le souffle de vie. C'est quand même Dieu qui l'a fait qu'il vienne au monde, ce gars-là. Puis s'il reconnaît pas la bonté de Dieu, puis la grandeur de Dieu, puis de vouloir fléchir le genou devant Dieu, ben, c'est lui qui c'est son problème. C'est moi, en tout cas, je veux le faire. Dieu s'attend à ce que tous le reconnaissent qui est là. Et l'honore. Même si la majorité des hommes veulent l'ignorer. Puis il y en a même pire que ça, qu'ils savent qu'il est là, mais continuent à agir et à vivre comme s'il n'existe pas. Mais ils savent qu'il est là. Dans Romains 1:20, ça nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, là. Dieu, il est parfait. Tu regardes la création, là, tout est calculé, hein. Je ferai pas un cours de science un matin. Mais il y a tellement de... Ça se peut pas que ça soit un hasard que la vie soit créée. Il y a tellement de choses qui étaient nécessaires qu'ils soient comme qu'ils sont là pour qu'il y ait la vie. Ça pouvait pas être un hasard. Un ingrédient sur des millions d'ingrédients, un ingrédient qui ne sera pas à la bonne dose, il n'aura pas de vie. Un gaz, une matière, un atome, n'importe quoi. La vie est possible parce qu'il a créé un monde parfait. Puis ces perfections invisibles là, de Dieu, on le voit, là, sa puissance éternelle puis sa divinité, ça se voit à l'œil, que ça nous dit dans le passage. Juste en regardant là, qu'est-ce qu'il y a, la perfection du système que Dieu a créé. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Tout est parfait. Puis on le constate qu'on a affaire à un Dieu hyper intelligent, hyper puissant, pour avoir fait ça comme que c'est. Puis là, ça nous ajoute, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Puis ils n'ont point rendu grâce. Ils ont vu la grandeur de Dieu dans la création, ils ont vécu leur vie sur la terre en ingrat, parce qu'ils ont profité de tout ce qu'il y avait autour d'eux, puis sans jamais dire merci à Dieu. Sans jamais savoir tourner vers Dieu pour lui dire, Seigneur, t'es grand, t'es bon, t'es merveilleux pour avoir tout fait ce que t'as fait. Ils lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, puis leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si on sait que le diable travaille pour aveugler le monde, pour essayer de trouver des raisonnements là, d'autres choses. Voyons donc, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Regarde, c'est l'évolution qui est enseignée. Regarde, crois en l'évolution. Continue à croire qu'il n'y a pas de Dieu. Ou bien, tu veux absolument qu'il y ait un Dieu, qu'on va te faire une belle statue ici, là. Tu vas pouvoir prier cette belle statue-là au lieu de te rendre gloire au vrai Créateur. Tourne-toi vers cette statue-là, c'est la mère de Jésus, là. Voyons donc, c'est vrai, c'est la mère de Jésus, tu sais. Prie pour ta grand-mère qui était bien fine pendant ta vie, elle est décédée, puis elle va t'aider. Tout ça, c'est des mensonges que le diable dit dans le cœur des gens pour les détourner de rendre gloire au Dieu créateur qui est révélé dans la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois qui forment un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre. Hors de lui, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a jamais eu avant lui, puis il n'y en aura pas d'autre après lui. C'est le seul Dieu qu'on doit glorifier. C'est lui qui a créé tout en lui. Fait que, tassons les statues, tassons les personnes qui veulent se faire glorifier, tassons l'ignorance puis l'aveuglement, puis croyons qu'il y a un Créateur pour devenir des personnes pieuses. Des personnes qui vont réaliser qu'il est là, puis qui vont vouloir lui rendre la gloire qui lui revient. Faut bien comprendre, là. Nous, on se pense bien fin, bien smart, puis on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, là, hein. Mais les créatures du ciel, là, les anges, puis les archanges, les chérubins, puis les séraphins, puis toutes les créatures qu'il y a dans le ciel, que Dieu a créées dans le monde invisible, on les voit un peu partout dans la Bible, là, sont beaucoup plus puissantes que nous, puis ils se prosternent déjà devant le Créateur. Nous, on se pense bien fin, puis j'ai pas besoin de me mettre à genoux devant Dieu, puis de dire merci. Mais les anges sont bien plus puissants que nous, puis ils se prosternent déjà devant lui. Dans l'Apocalypse, ça nous dit au chapitre 7, verset 11, « Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, puis ils adorèrent Dieu. » Dieu nous a déjà tout révélé dans la Bible pour qu'on puisse le connaître. Tout ce qu'on lit, là, tout ce qu'on étudie ensemble, ça nous apprend des choses. On peut apprendre des choses tout le temps, ça, c'est sûr. Mais ce qu'on sait déjà, on le sait, c'est révélé. Ça nous a été donné pour qu'on le connaisse, pour qu'on puisse lui rendre cette gloire-là qui lui revient. Il nous a tout révélé pour que nous soyons sauvés et qu'on marche dans la piété. Qu'on marche d'un cœur à vouloir lui rendre cette gloire-là. Dans 2 Pierre, c'est dans le passage que on est en train d'étudier, peu un bout, on l'a déjà lu au début. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, il nous a déjà donné la vie et la piété. Il nous a déjà donné tout ce qu'on a besoin pour être des personnes pieuses, des personnes qui cherchent Dieu, qui veulent honorer Dieu au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il nous a déjà tout révélé les mystères qu'il y a autour de Dieu. Parce que quand on parle de Dieu à quelqu'un dans le monde, s'il n'a pas lu la Bible, pour eux, c'est tout un mystère. C'est tout du caché. Personne ne comprend. Tout le monde s'imagine, ouais, ça pourrait être ça, ou j'ai entendu parler de ça. Mais nous, on le sait pourquoi. Parce que c'est déjà tout révélé dans les Écritures. C'est ça qui nous a donné de comprendre, de connaître le vrai Dieu, puis pouvoir être une personne pieuse envers lui, une personne qu'il veut le révérer et le glorifier. Le mystère de Dieu s'est révélé, puis c'est Jésus qui est le centre. Ça nous dit dans 1 Timothée 3, 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » C'est un mystère là, pour le monde, mais pas pour les chrétiens. Il dit « Ça a été révélé. » Il dit « Celui qui a été manifesté en chair, ça parle du Messie, qui est venu en chair et en os. » C'était le mystère, c'était le centre, c'était la révélation de Dieu. Il veut, ça, c'est le centre qu'il faut se tourner pour rentrer dans la vraie piété qui est devant Dieu. Se tourner vers le Seigneur Jésus pour notre salut, mais aussi pour notre service, pour notre vie pour lui. Vie par lui, mais pour lui. Il était justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, puis élevé dans la gloire. Là, il dit, le mystère de la piété est grand, puis cette piété-là, le sujet de la piété, c'est Jésus. Il a été révélé. Mais pour une personne qui aime Dieu, puis qui prie, c'est pas suffisant pour être sauvé. Là, je vais vous parler d'un point au niveau de la piété. Il y en a des millions et des millions de personnes qui prient. Puis, c'est pas suffisant pour être sauvé. Il y en a qui ne prient pas le bon. Prient des statues, prient des images, prient le grand-main décédé. Ils ont des religions inventées par les hommes, puis ça n'a rien à voir avec ce qui a été révélé dans la Bible. Puis même plus que ça, s'ils n'ont pas découvert la révélation de la piété qui est Jésus, tu peux être en train de prier Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sans être sauvé. Tu n'as pas reconnu Jésus. Puis ça, on voit ça dans un passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, au verset 1. On parle de Corneille, qui était quelqu'un, un Romain, puis c'est un homme pieux, que la Bible nous dit. C'est un homme qui priait à Dieu, qui faisait des aumônes, qui aimait Dieu, mais t'as pas encore sauvé. Il manquait quelque chose pour être vraiment une personne pieuse selon Dieu, selon ce que Dieu cherche. Ça nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier d'une cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, puis il priait Dieu continuellement, puis il n'était pas encore sauvé. Ça nous dit dans le passage, quand on regarde un peu plus, en lisant toute son histoire, il y a un ange qui lui est apparu, puis Dieu lui a dit, tu vas envoyer des amis, quelqu'un à Joppé, tu vas aller chercher Pierre, puis là, tu vas aller chercher Pierre pour écouter ce que Pierre va te dire, puis tu vas entendre des paroles par lesquelles tu seras sauvé. C'est ce qui est dit. Il est dit dans... Il fallait qu'entendre les paroles face au Messie, les paroles de Jésus. Fallait pas qu'il entende juste ce que Dieu a dit, fallait qu'il entende ce que Jésus a dit pour être sauvé. Fait qu'une personne pieuse, quand on dit faut être pieux, c'est pas suffisant si t'es pas à Jésus encore. Si t'as pas focusé ta vie que c'est Jésus le Sauveur, t'es pas encore sauvé. Il faut que notre piété soit centrée sur le Messie, qui est Jésus, et sa parole. Regardez bien dans Acte 11, qui est le même sujet qu'on est en train de regarder à propos de Corneille. Puis là, Pierre est en train de parler. Il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Il avait entendu parler de Dieu, il priait à Dieu, il faisait des aumônes à Dieu, ce n'était pas encore suffisant pour être sauvé, puisque Dieu a envoyé son Fils, qui est la porte des brebis, qui est la porte. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Fait que même une personne pieuse qui prie le vrai Dieu d'Israël, s'il n'a pas encore compris que Jésus, c'est la porte et le chemin, il ne peut pas être encore sauvé. Faut que tu entendes parler de Jésus puis de sa parole, puis t'engager à suivre Jésus. C'est là que tu vas l'être. Il dit, tu vas entendre des paroles, des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. C'est ça qu'on a besoin d'entendre, entendre parler du Messie, celui qui sauve. Amen. Nous sommes avertis dans la Bible, à part des prophéties, que dans les derniers temps, il y aura des faux chrétiens qui feront semblant d'être des personnes qui aiment puis qui servent Dieu. Parce que dans le monde évangélique, il y a aussi l'idée que c'est la religion évangélique. Il y en a qui vont dans les églises évangéliques puis ils ne sont pas encore vraiment convertis. Ils n'ont pas donné leur vie. Ce n'est pas une critique que je fais. Si vous êtes là pour écouter, pour apprendre, c'est parfait. Mais à un moment donné, il faut le faire, le pas de dire qu'on accepte Jésus comme notre sauveur puis s'engager à le suivre, à le servir. Parce que la religion ne sauve pas. Même si tu dis, ah, cette religion évangélique-là, il prêche des bons points. C'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Faut que tu laisses rentrer Jésus dans ta vie, puis il faut là, tu vas commencer la nouvelle vie. Il y a des gens, comme ça dit, qui vont en avoir des faux qui sont dans les églises, puis ça, c'est bien de valeur, mais on espère tout le temps que tous ces gens-là comprennent puis qu'ils se convertissent. Dans 2 Timothée 3:5, ça dit qu'il y en a qui ont l'apparence de la piété. Ils ont de l'air des personnes pieuses. Mais il en renie ce qui en fait la force. La force, là, c'est quand tu as vraiment passé par la nouvelle naissance. Faut que tu naisses de nouveau, faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Ta vie commence à changer après, quand tu as commencé à le recevoir. Quand tu l'as reçu, là, ça commence à changer. Il y a un moment dans ta vie que ça se passe. Comme je l'ai expliqué tantôt, il y a un moment où ce que tu l'acceptes. C'est comme le mariage. Tu peux être à côté qu'une personne puis pas être considéré marié. C'est au moment que tu vas être passé devant ceux qui ont l'autorité de marier, puis tu vas avoir prononcé l'engagement de ta bouche, signé le papier, là, aujourd'hui ça marche avec un papier, là, devant des témoins, là, tu vas être considéré marié, sinon tu es un conjoint de fait. Tu n'es pas un marié, ni devant Dieu aussi. Tu n'es pas marié. Tant que tu n'as pas pris position pour dire devant des témoins, puis ton père et ta mère, ou t'es de ta famille, puis ça, qui sont là comme témoins, puis tout le monde signe, là, tu vas être considéré marié. Il y a un moment, quand tu le fais, le move, que tu vas le devenir. La vie chrétienne, c'est la même affaire. Il y a un moment que quand tu donnes ta vie au Seigneur, puis tu dis au Seigneur que tu te repens, puis que tu veux changer de vie, puis que tu veux qu'il vienne dans ta vie, c'est là que ça commence. Puis après, tu vas avoir une marche avec le Seigneur pour toute ta vie. À marcher avec lui, puis à le suivre. Mais il y en a qui ont une apparence, ça a de l'air des gens pieux, mais ils n'ont jamais fait le pas. Ils peuvent prier comme Corneille priait, puis ça, il n'était pas encore sauvé. Il faisait des aumônes. Il priait sans cesse en plus, que ça dit continuellement, mais ça ne sauve pas. Il faut que tu passes par Jésus pour être sauvé. Les prophéties annoncent qu'un jour, toutes les créatures fléchiront encore le genou devant le Messie, puis elles confesseront qu'il est le Seigneur. Autant que j'ai dit tantôt, les anges se plient déjà les genoux devant lui, mais il y a un jour qui s'en vient, que tout le monde, qu'ils veulent pas, vont quand même plier le genou devant Jésus, puis dire qu'il est le Seigneur. Même Satan. Dans Philippiens 2:9, ça nous dit, c'est pourquoi aussi, en parlant du Messie, Dieu l'a souverainement élevé, puis il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le Messie, il a le nom au-dessus de tout nom. Il est l'autorité suprême. Afin qu'au nom de Yeshua, Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ça va arriver que les gens le veulent, qu'ils ne veulent pas, qu'ils savent pas, qu'ils forcent même pour pas vouloir l'admettre, mais qu'ils vont être obligés de le faire pareil, de gré ou de force. Pour ça que les chrétiens disent, tant qu'à fléchir le genou, un jour, tout se met de commencer tout de suite. On va le faire de toute façon. De toute façon, en plus de ça, un jour, là, tout va être détruit. Il n'y aura plus de planète. Il n'y aura plus le système de la vie qu'on voit, là, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, l'univers. Ça nous le dit dans la Bible que tout va disparaître. Ça va être roulé comme un vieux vêtement. Puis il n'y aura plus de place pour eux. Dieu va anéantir, désintégrer toute cette création matérielle, puis il va déployer, il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, puis ça va être un système complètement différent pour qu'on vive l'éternité sur un autre, quelque chose d'autre, de bien meilleur que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas une science-fiction que je vous dis là, c'est un fait. Prophétiser. C'est un Dieu tout-puissant-là qui a créé déjà celle qui est là. Il est capable de créer d'autres choses. Il dit, tout va être détruit un jour, puis il restera rien de cette vie sauf ce que Dieu créera pour la vie éternelle. Fait que s'il y en a qui continuent à nier Dieu, tout va disparaître un jour. Tu vas être où? Tu t'en vas où? Puis tu vas vivre combien de temps? Tu vas vivre 70 ans, après ça, tu es mort, tu t'en retournes dans la poussière, puis ton âme s'en va un séjour des morts, en attendant qu'elle ressuscite, pour en attendant d'être obligé, pareil, de te mettre à genoux devant Dieu. C'est rien que normal qu'on s'attache à lui, puis qu'on le serve. Il est Dieu. Il est créateur. Nous, on est des créatures. Dans 2 Pierre, ça nous dit au verset 11, 3-11, « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, toute la vie va se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? » On devra, on le sait que tout va disparaître un jour, ça s'use. Le soleil, là, même si on dit que c'est une boule d'énergie, là, elle ne peut pas être éternelle. Ça s'use. Et maintenant, elle va être trop petite, puis ça va éclater comme une étoile qui éclate, qu'on dit, ça, elle disparaît. Mais ça va faire la même chose, ça. Mais Dieu nous dit que lui, il va tout scraper. Fait que ça va tout disparaître, puis pensez-vous pas qu'on devrait s'exercer à la piété, sachant que tout va disparaître. Il faut quand même prendre garde quand on parle d'être pieux, là, ça c'est un autre sujet que je veux parler, là. Quand on est une personne qui prie puis qu'on sait que Dieu nous entend puis tout ça, faut pas penser qu'on va s'enrichir avec ça. Faut pas le faire dans le but de vouloir devenir des gens riches et célèbres puis pensant que tout va nous être donné puis se pâter les bretelles puis se penser bon. Parce que la piété, ça sert pour le salut puis tout ça. C'est une source de gain dans ce sens-là, mais Dieu nous dit qu'il faut se contenter. Parce qu'il y en a qui se contentent pas, puis ils veulent toujours un plus beau char, une plus belle maison, plus bel job. Ils sont jamais satisfaits, plus belle femme. Elle s'use, ma femme, elle a vieilli. Puis là, il y en a qui changent de femme parce qu'elle est rendue vieille. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là? J'en connais qui ont fait ça. Elle avait vieilli ou elle avait engraissé, il l'a tossé, puis il s'en est trouvé une plus jeune, puis une plus belle. C'est pas de Dieu. Dieu ne nous demande pas de vivre la piété pour rechercher des choses comme ça. Il faut se contenter de ce que Dieu nous a déjà donné. Ça nous dit d'éviter les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et qui sont privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est pas une source de gain, la piété. C'est pas pour devenir riche ou célèbre. C'est en effet une grande source de gain que la piété, mais avec le contentement. Faut que tu te contentes. Faut que tu te dises merci de ce que tu as. Il faut pas non plus penser que c'est par notre propre piété aussi qu'on va réussir à voir la main de Dieu dans notre vie, puis qu'on va voir des miracles, puis on pense que c'est parce que je suis un gars qui sait comment prier. Ça n'a même pas rapport à ça non plus. Tout ce qu'on vit, c'est des grâces de Dieu. Si Dieu donne un don ou un talent à quelqu'un, c'est un cadeau que Dieu lui fait. C'est pas grâce à lui qui est parce qu'il est meilleur. C'est parce que Dieu simplement choisit telle personne pour faire telle affaire. C'est arrivé un coup que les apôtres ont fait un miracle, puis ils l'ont dit que c'est pas grâce à notre piété que ce gars-là il est guéri. C'est à cause de la foi en Jésus qu'il est guéri. Pierre, voyant cela, il dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Puis là, il lui explique que c'est par la foi en Jésus que cet homme a trouvé une entière restauration. C'est pas notre piété qui va faire, pas parce qu'on a des meilleures prières, c'est parce que Dieu nous a choisi de nous utiliser pour prier quelqu'un puis le voir guéri. L'enseignement de la Nouvelle Alliance, il est basé sur la piété. Puis il faut garder les paroles du Seigneur, puis de respecter, de le respecter, puis de le servir, notre Dieu. Parce que c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui nous a tout donné, il a tout accompli, on a juste besoin de s'engager, puis de dire, Seigneur, on veut te remercier, on veut te glorifier, on veut t'élever. Puis dans un passage, ça nous le dit que la doctrine du Seigneur, c'est selon la piété. C'est le but dans lequel Dieu veut nous amener, qu'on devienne des personnes pieuses, des personnes qui cherchent Dieu, qui veulent honorer Dieu, glorifier Dieu, louanger Dieu, prier Dieu, chercher Dieu. C'est ça. Dans 1 Timothée 6, ça dit au verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Si tu n'as pas l'idée de vouloir être pieux face au Seigneur, tu es un enflé d'orgueil. Si tu es vraiment humble aujourd'hui, tu vas avouer qu'il y a un Créateur puis qu'il mérite qu'on lui dise merci puis qu'on y parle. Si tu veux pas dire merci puis vouloir y parler, t'es un orgueilleux. Puis c'est même, ça dit, c'est une fausse doctrine de penser que t'as pas à le faire. Puis ça dit plus que ça. Il dit c'est un enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Une personne qui pense qu'il n'a pas besoin de louer Dieu, glorifier Dieu, servir Dieu, chercher la face de Dieu, s'il pense ça, il ne sait rien. C'est un orgueilleux. C'est un gars qui est malade des questions oiseuses puis des disputes de mots, puis il est rempli de l'idée de querelles, puis de calomnies, puis de mauvais soupçons. C'est de la méchanceté qui l'anime. Parce que quelqu'un qui est vraiment humble quand tu es chrétien va vouloir reconnaître que Dieu est Dieu, puis il va être assez humble pour dire merci Seigneur, puis gloire à ton nom, puis c'est le temps de chanter un chant au Seigneur, alléluia, puis on va élever nos mains, puis on va même se réjouir dans ta présence, on va s'exciter, puis on va te glorifier, puis ça dure 5 minutes de plus, là, on continue à le faire, puis on n'est pas là, hey, moi je suis tanné, moi j'ai hâte de m'en aller. C'est vrai, on n'est pas là pour nous, on est là pour lui. Une attitude pieuse, là, c'est la clé pour obtenir les promesses de Dieu. Dans 1 Timothée 4, 7, ça dit, « Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. » L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Exerce-toi à la piété. Chaque chrétien doit faire de l'exercice spirituel. Ça consiste à quoi? À être pieux, prier Dieu, louer Dieu, chercher Dieu, plus de Dieu. Parce que ça le dit, ayant la piété là, est utile à tout, elle a les promesses de la vie présente puis de celle à venir. C'est la piété qui a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. C'est quand qu'on est pieux qu'on obtient les promesses. Prière, louange. Quand t'es dans cela, puis t'aimes ça, puis t'en veux plus, c'est là que tu vas être béni par Dieu. Le Seigneur nous connaît, puis continuera à prendre soin de tous ceux qui sont pieux. Je finis avec ce verset-là, dans 2 Pierre 2,9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. On veut-tu être délivré de nos épreuves? On veut-tu la victoire dans nos vies? Devenons des personnes pieuses. Il dit, fais tous tes efforts pour ajouter à ta foi la piété. À être une personne pieuse. Même si ça fait 40 ans, 50 ans que tu es chrétien, lâche-toi pas de vouloir louer Dieu, prier Dieu, chercher la face de Dieu, plus de Dieu dans ta vie. Les promesses sont là-dedans. Puis il dit, il va te délivrer, il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de te révéler à chacun de nous, Seigneur, pour nous faire nous faire comprendre la position qu'on doit avoir devant toi. Seigneur, on veut rester humble, puis on veut être assez humble pour être capable de te dire merci, puis te rendre la gloire qui te revient. Prendre du temps, plus de temps avec toi, pour toi, parce qu'on est là pour toi, Seigneur, pour te rendre la gloire qui te revient. Sois glorifié dans nos vies, par nos paroles, par nos attitudes, par nos actions, par nos pensées, par nos agissements, dans l'église ou à la maison, partout, Seigneur, où ce que nous sommes, qu'on peut être des gens pieux, puis des gens qui te rendent la gloire, qui te revient. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.